France Info.
Bonsoir. Un sommet sur l'Ukraine à Paris en ce moment même et ce message d'Emmanuel Macron en ouverture. Un sursaut des alliés est nécessaire. Invité ce soir sur ce plateau, Guillaume Ancel, spécialiste des questions militaires. Vous êtes ancien officier de l'armée française, auteur du blog nepassubir.fr et vous venez de publier, je l'ai lu, Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette chez Flammarion. Que valent les prix planchers lancés par le chef de l'État samedi depuis le salon d'agriculture? Nous poserons la question dans la deuxième partie des informés à Philippe Chalmin, professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine. Nous évoquerons avec nos informés la crise agricole, le match pour les européennes, Macron-Bardella, les informés, Patricia Lémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales, auteur du livre « Récits au cœur du chaos » publié chez Artaud, et Jonathan Boucher-Petersen, éditorialiste politique à Libération. Bienvenue, bonsoir à tous les deux. Un sursaut des alliés est nécessaire. Les mots d'Emmanuel Macron ont levé le rideau de la conférence sur l'Ukraine qui s'est ouverte en fin d'après-midi, ça se passe à l'Élysée à Paris, en présence des représentants de plus de 25 pays, essentiellement européens, le président Emmanuel Macron.
Nous sommes aujourd'hui, pas simplement à une date qui marque un peu plus des 2 ans du début de cette guerre d'agression russe en Ukraine. Nous sommes sans doute, plutôt à coup sûr, au moment d'un sursaut qui est nécessaire de notre part à tous, compte tenu de la transformation de la menace d'un point de vue militaire et stratégique.
Mais qu'est-ce que les Européens peuvent donc annoncer? Nous, on va voir ça dans un court instant avec vous, Guillaume Ancel. Mais tout d'abord, je me tourne vers vous, Patricia Lémonière. Qu'est-ce qui se joue ce soir?
Alors, l'Élysée, vous savez qu'il fait parfois des briefings à la presse. Et donc, nous avons eu le droit à un briefing hier. Effectivement, on essayait de nous expliquer ce qui allait se jouer durant cette conférence. Alors, quels sont les enjeux, en quelque sorte? Eh bien, il s'agit de faire un constat de l'état des lieux. Et après, de définir un objectif et de trouver les moyens pour atteindre cet objectif. Donc, en théorie, j'ai dit bien en théorie, pas d'annonce particulièrement concrète à la sortie sur le nombre d'armes qui pourraient être livrées.
Mais par exemple, c'est pas ce qu'on attend ce soir.
Non, on attend un renforcement de l'unité, un message envoyé à Poutine sur cette unité et des grandes décisions quand t'as l'objectif, par exemple, sur les armes. Il y a cette question des obus. Vous savez, la proposition qui est tchèque, qui dit qu'il y a 800 000 obus dans le monde complètement disponibles immédiatement, si on veut. Il suffit qu'on les achète. Ils vont discuter de cette proposition. Ces obus sont d'origine sud-africaine, coréenne.
Pas sûr que les Européens aient envie d'acheter des obus à l'extérieur.
Alors c'est la question. On a beaucoup dit que la France y est opposée. Dans les briefings qui nous ont été faits, la France n'est pas opposée, nous a-t-on répété, quand il y a urgence.
Les produire, vous disiez à l'instant, Jonathan Boucher-Peterson, je vais revenir vers vous. Guillaume Ancel, très concrètement, vous êtes un expert militaire. Ce soir, apparemment, on essaie de faire de la cohésion, c'est ça. On resserre les rangs des Européens parce que les Américains, ils sont un petit peu préoccupés par autre chose, la campagne de leur présidentielle là-bas. C'est ce qui se passe ce soir?
Oui, un sursaut parce que, d'abord, la situation en Ukraine est extrêmement tendue. La Russie n'a pas les moyens d'envahir l'Ukraine en l'état, mais c'est elle qui a aujourd'hui le leadership sur la ligne de front. Elle exerce des pressions très fortes, elle pourrait percer à plusieurs endroits. Et les Ukrainiens sont réellement à la peine parce qu'en fait, ils manquent d'approvisionnement militaire depuis que les Américains ont d'abord réduit en octobre avec la crise au Proche-Orient et finalement pratiquement stoppé les approvisionnements militaires depuis le mois de décembre, début janvier. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour l'Ukraine et ça oblige l'Europe à regarder peut-être pour la première fois en 40 ou 50 ans que sa sécurité ne peut pas dépendre du bon vouloir des Américains. Et juste, c'est le plus grand espace de prospérité du monde. Si elle doit se mobiliser pour défendre l'Ukraine et pour défendre toute l'Europe, elle a besoin de regarder les choses différemment sur 2 aspects essentiels. Le premier, c'est l'industrie. Elle a aujourd'hui, elle a encore des manufactures nationales. En France, on est content parce que notre producteur d'obus va faire 30 000 obus par an au lieu de 10 000 l'année dernière. Sauf qu'il en faut 3 millions.
Il se trouve
À Tarbes.
À Tarbes, c'est ça.
Voilà, les forges de Tarbes.
Les forges de Tarbes, oui.
Très belle entreprise. Mais c'est
30 000.
C'est une héritière, voilà, de notre système de manufacture royale, où on produit en peu d'exemplaires, quasiment comme de l'orfèvrerie.
Nous ne sommes pas au niveau.
Nous ne sommes pas au niveau industriel. C'est un peu comme si on avait encore l'Ateco Air pour faire des avions de transport. Et la différence avec Airbus, c'est qu'il faut seulement quelques grandes entreprises européennes dont on se demande plus si l'obus est français, allemand ou espagnol, mais c'est des obus qui sont produits en millions d'exemplaires. L'Ukraine a besoin de 3 millions d'obus en 2024, pas 30 000 obus, c'est 100 fois plus. Et puis l'autre sujet, bien sûr, c'est est-ce que l'Europe serait capable de se défendre seule sans l'intervention des États-Unis face à une Russie dont on voit bien que c'est maintenant un empire menaçant, pas seulement contre l'Ukraine. Et au fond, toutes ces armées rassemblées ne sont que des bonsaïs qui ne permettent pas de faire une forêt. Si on veut réellement être dissuasif, oui, il faut qu'on passe à une armée européenne, c'est une évidence aujourd'hui.
Des bonsaïs, c'est-à-dire des armées modèles réduits. Jonathan Boucher-Peterson, vous le sentez utile, ce sommet, ce soir à Paris ?
Ça, on verra après s'il est utile. En tout cas, il était nécessaire que
c'est
ça
une étape nécessaire.
Ça arrive dans un moment un peu de flottement, d'une certaine manière, où effectivement, il y a les gens qui regardent au quotidien ce qui se passe là-bas. Donc effectivement, personne n'est surpris de la situation. Mais quand on pense opinion publique et quand on pense mobilisation des peuples européens, il y a ceux qui sont en première ligne, comme la Pologne, comme les Pays-Baltes, qui sont très mobilisés. Et puis effectivement, l'opinion publique, les débats, on sent que ça s'est déporté, c'est devenu une petite musique, l'Ukraine, qui est passée clairement au second plan. Il y avait l'espèce de feuilleton de la contre-offensive qui a plutôt été vécu comme une déception, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas arrivé comme les uns et les autres pouvaient l'espérer. Et je pense qu'il y a un moment de révélateur, effectivement, sur les modèles d'armée. Pour un pays vendeur d'armes comme la France, on va dire, on peut être surpris de se dire, on n'est pas au niveau, mais en fait, on ne produit pas ce qui est adapté à cette guerre conventionnelle. Nous, on produit de l'ultra-technologie, on produit du sous-marin, on produit du Rafale, on produit des systèmes de surveillance très, très sophistiqués. Là, on est dans quelque chose d'assez basique. Quand on dit que c'est 3 millions d'obus, voilà, 3 millions d'obus, c'est des chaînes à l'ancienne, d'une certaine manière. Et on s'était éloigné de ce modèle-là avec une armée, certes très performante dans chacun des domaines, mais pas au niveau de ce genre de menace. Et l'autre élément, c'est ce que disait Guillaume Ancel sur la défense européenne. Pareil, on a l'impression que ça fait 15 ans, 20 ans qu'on entend parler de ce sursaut nécessaire, de cette qu'avoir une identité politique, avoir une voix qui porte, avoir une autonomie d'action, ça passe par ça. Je pense qu'il faut se méfier du « Trump rend service à l'Europe », ce discours de dire le fait que Trump pourrait faire défaut est une occasion inespérée pour l'Europe. On sait que l'Europe est quand même pas toujours au rendez-vous, même quand les occasions sont inespérées. Donc il y a clairement un sursaut presque métaphysique ou en tout cas identitaire de se dire on est, comme on le rappelait, la première puissance économique du monde. Il faut qu'on ait la capacité d'assurer notre sécurité. Quand on voit les accrochages, voir les provocations qu'il y a aujourd'hui de la Russie, ça ne concerne pas que l'Ukraine, ça concerne des forces européennes. On voit de façon de plus en plus forte.
Les obus, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, en a parlé aujourd'hui, nous allons l'entendre dans un instant, à 20h11, ce sera après le Fil Info, signé Stéphane Nilhom.
CNews présente ses excuses pour avoir présenté l'IVG comme la première cause de mortalité dans le monde. Le ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, assure que l'avortement n'est ni une maladie ni un crime contre autrui. L'avortement, c'est une liberté. La France insoumise décide de saisir l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel. L'Ukraine n'a reçu que 30% des obus promis par l'Union européenne. Le constat du président Volodymyr Zelensky en visio à la vingtaine de participants réunis à l'Elysée. Une invitation de la France pour réaffirmer soutien et unité au régime de Kiev face à la Russie. Kylian Mbappé dînera demain soir à l'Elysée avec l'émir du Qatar. L'attaquant du PSG répond à une invitation du président de la République. Cette visite de l'émir doit permettre d'approfondir la relation entre les deux pays en matière d'économie, de défense, mais aussi demander un cessez-le-feu durable à Gaza. Et puis les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange dès demain face au risque d'avalanche. Vigilance orange dès aujourd'hui face aux crues, cette fois pour 5 départements, le Pas-de-Calais où plusieurs cours d'eau menace à nouveau, mais aussi les deux Charentes, la Gironde et la Dordogne.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
L'Ukraine n'a reçu que 30% du million d'obus d'artillerie promis par l'Union européenne l'année dernière. Mais c'est ce qu'il a déclaré, hein, Volodymyr Zelensky, lors d'une conférence de presse aujourd'hui à Kiev en compagnie du Premier ministre bulgare Nikolai Denkov, Volodymyr Zelensky.
Quant à l'Europe et au pourcentage que vous avez mentionné, ce n'est pas tout à fait le cas. Sur le million d'obus que l'Union européenne nous avait promis, ce ne sont pas 50% qui sont arrivés, mais 30% malheureusement.
Guillaume Ancel, vous en avez connu des théâtres militaires, des théâtres de guerre. On évoquera votre livre tout à l'heure, hein, Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette. 30% du million d'obus d'artillerie, l'armée ukrainienne, la contre-offensive, ça ne marche pas. Volodymyr Zelensky a déclaré, décrété, enfin révélé plutôt, qu'il y a eu des fuites auprès de l'armée russe. Il nous dit qu'il y a d'autres plans qui sont sur la table, mais s'il n'y a pas d'obus, s'il n'y a pas de réassort en termes de munitions, s'il manque des blindés, s'il n'y a pas de F-16, comment ça marche la défense ukrainienne ?
En fait, j'ai peur que les Européens doivent se résoudre à, s'ils veulent réellement défendre l'Ukraine, à aller beaucoup plus loin. On peut pas toujours espérer que les autres se battent par procuration. Et les Ukrainiens nous faisaient remarquer pendant la contre-offensive, quand ils ont commencé à se planter sur le mur russe, qu'on leur a donné beaucoup de conseils sur la manière dont ils devaient se concentrer.
Qu'est-ce que c'est aller beaucoup plus loin, Guillaume Ancel ?
C'est justement, les Ukrainiens nous ont dit, mais vous, pendant le débarquement en Normandie, les Américains ne se sont pas contentés de vous livrer du matériel. Et s'ils n'avaient pas été avec vous, vous seriez sans doute encore sur les plages. La question, c'est, bien sûr, il y a le problème d'approvisionnement en armes et en munitions, c'est ce qu'évoque Zelensky. Mais il y a aussi un problème d'implication. L'Ukraine est 4 fois plus petite que la Russie. Si réellement nos intérêts sont en jeu en Ukraine, et je le pense pour l'Europe, à un moment, il faut accepter de s'engager militairement en Ukraine, non pas pour déclencher une 3e guerre mondiale contre la Russie, mais faire exactement comme elle, en envoyant des brigades internationales qui, en fait, sont le camouflage de brigades faites avec des éléments nationaux, et faire une guerre avec les soldats qu'on a préparés pour ça. Ce qu'ont fait les Américains sur d'autres théâtres, comme en Irak.
Guillaume Ancel, vous êtes un officier supérieur, un ancien, vous avez connu des théâtres de guerre, vous avez connu des opérations spéciales. Vous nous dites ce soir qu'il faudrait que la France et autres pays d'Europe envoient des forces militaires sur le terrain, au combat, au contact avec les Russes.
Oui, mais dans le cas d'une coalition internationale, pour que ce ne soit pas.
C'est une guerre générale, ça.
Non, c'est un engagement. Je rappelle que les Russes se sont engagés depuis 2014 en Ukraine, sous couvert de milices qui, en réalité, étaient l'armée russe dont on avait enlevé la casquette. Donc rien ne nous empêche de faire la même chose, parce qu'aujourd'hui, 50 à 80 000 hommes venant de nos unités européennes qui sont très bien entraînées et très bien équipées, elles renverseraient le front. Et on ne serait pas en train de se demander s'il faut livrer 10 Mirage 2000 ou 20. Là, la guerre serait gagnée, à mon avis, en moins d'une année.
Mais sous couvert de l'Alliance Atlantique ou d'une coalition des forces européennes comme une sorte d'union des défenses de chaque pays des 27 ?
Ça ne peut pas être sous couvert de l'OTAN, d'abord parce que les Américains ne l'accepteraient pas, ça les engagerait militairement. Et d'autre part, si c'était l'OTAN, on serait dans une confrontation majeure qui pourrait venir à un stade nucléaire avec la Russie. Non, il faut rester sur le niveau en dessous. C'est-à-dire qu'il faut nier catégoriquement être venu militairement au niveau national ou international, mais par contre, faire une coalition comme on l'a fait sur d'autres théâtres et qui ont très bien fonctionné. Mais c'est une question d'engagement, si vous voulez. On ne peut pas espérer que les Ukrainiens gagnent seuls face à un tel pays. On veut réellement les défendre. Pardon, mais il faut avoir le courage de penser à ce qui nous fait frémir, c'est faire la guerre, parce que la paix, ça se gagne.
Patricia Lémonière, vous en avez couvert tant et plus des zones de guerre pour TF1. Qu'est-ce que vous répondez ce soir à Guillaume Ancel ? Est-ce que c'est une perspective qui se dessine lentement ?
Je ne réponds pas, je dis que c'est une petite musique qu'on commence à entendre, pas forcément sous la forme de nos soldats envoyés dans le cadre d'une milice, mais c'est une petite musique où certains disent qu'il faudrait peut-être envisager de voir des présences occidentales plus marquées. Il y a des gens, hein, mais pas du tout présents comme ça sur le terrain. Mais je crois qu'au-delà de ces petites musiques, parce qu'il y a deux musiques qui courent actuellement, c'est effectivement une présence et peut-être occidentale sur le terrain, et une autre, c'est que Poutine va gagner. Mais au-delà de ces deux musiques, là aujourd'hui, il y a une urgence. Il y a une urgence qui ne se compte pas en termes de mois, de développer une autre stratégie, oui. Voire pour 2025. C'est une urgence en termes de semaines. Soit l'Ukraine est enfoncée, les fronts sont enfoncés. Advitka, on a dit, ouais, Advitka, c'est pas très important. Je suis désolée, Advitka, c'était important. Et donc, soit les fronts, il n'y a pas qu'Advitka sur ce front-là aujourd'hui. Donc, soit les fronts sont enfoncés. Et donc, pour les Ukrainiens, c'est un coup majeur, en plus porté au moral. Soit on y va. Et on y va tout de suite, c'est-à-dire c'est livré demain, demain 500 000 obus.
Oui, vous dites livrés, mais sur les...
Il faut les acheter.
Sur l'affaire des... Enfin, ce que évoque
Guillaume
Ancel...
Mais je dis que ça, c'est une petite musique qui petite court musique. Aujourd'hui dans les...
Jonathan Boucher-Peterson, est-ce que nos opinions publiques... Est-ce que nos exécutifs politiques, nos opinions publiques sont prêtes à ça?
Ah non, pas du tout. Mais après, c'est comme toute opinion publique ou tout politique, c'est un chemin aussi. Donc après, la question, c'est de ça, c'est entre deux urgences et deux temporalités. On est quand même encore dans ce que Guillaume Ancel décrivait au début, cette idée de sous-traitance, en disant on accompagne, il faut qu'on accompagne à la hauteur des promesses. Ça paraît quand même quelque chose d'un peu évident. C'est-à-dire que quand on est mis face aux limites de simplement des pays qui promettent et qui occupent le terrain médiatique en disant, en multipliant les chiffres, les annonces, on pourrait au moins être au rendez-vous de ça. Si ça passe par les acheter ailleurs, parce qu'on est incapable de les produire à l'instant T, on peut faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire qu'on peut quand même répondre à une urgence en achetant les obus là où ils sont. On peut avoir cette espèce de sursaut, l'expression économie de guerre, d'une certaine manière, enfin de dire que s'il y a des besoins qui sont inédits, bah, il faut mettre en place des capacités de production qui sont inédites, qu'elles soient européennes, que certains pays français ou autres avancent en solo s'ils sont
l'économie
capables d'avancer plus
guerre,
vite.
Hein,
l'économie de guerre, ça veut dire concentrer une partie de la puissance économique vers ce qui apparaît comme une urgence vitale pour l'Europe. Donc ça, c'est, et encore une fois, un gouvernement occidental préfère se dire on soutient financièrement, on entend encore le Canada annoncer 3 milliards, on voit que la France a signé un accord de sécurité, l'Italie a signé un accord de sécurité aussi. Toute cette espèce de sous-traitance où on met à distance, en même temps on a un discours politique qui est de dire c'est l'identité, c'est l'intégrité de l'Europe qui est en jeu. Au bout d'un moment, il y a une incohérence en fait dans tout ça.
Je vais revenir vers vous Guillaume Ancel, parce que c'est très intéressant ce qui se dit autour de cette table. Je voudrais vous soumettre juste parmi les idées, les pistes qui sont avancées, celle de Raphaël Glucksmann, député européen, tête de liste Place Publique et Parti Socialiste pour les Européennes, invité de France Info ce matin. Qu'est-ce qu'il dit, Raphaël Glucksmann? Que les Ukrainiens ont besoin d'armes, de munitions, d'aviation et d'artillerie, et il parle même d'aller chercher l'argent.
Ils ont besoin aussi que nous soyons sérieux sur les sanctions que nous prenons contre la Russie de Vladimir Poutine.
Mais comment
ils ont besoin que nous saisissions les 200 milliards d'avoirs publics russes qui sont dans nos banques et qui sont simplement gelés jusqu'à ce jour.
Alors c'est un autre sujet, ça, Guillaume Ancel, hein, que l'engagement de troupes européennes face aux Russes, mais il y a aussi cette idée des avoirs gelés, de quelque chose qui ne fonctionne pas dans les sanctions aussi depuis 2 ans. Hein.
Mais Raphaël Glucksmann a raison. À un moment, si on veut s'engager sur la défense de l'Ukraine et de l'Europe, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut arrêter, de se borner aux endroits où on se dit, ah ben non, on va avoir un contentieux juridique. Mais attendez, c'est pas un problème de contentieux devant un tribunal. Là, on parle de la guerre. Là, on parle de milliers de morts. Enfin, tous les jours, il y a des dizaines de morts sur le front en Ukraine. Tous les jours, les Ukrainiens sont bombardés par la Russie.
Les Ukrainiens,
il y a une urgence.
31 000 soldats tués.
Alors, soldat. Je pense que là, c'est un bilan qui a été envoyé dans un but très médiatique, parce qu'il est sans
doute
inférieur à 4 fois la réalité. De même que les Russes ont sans doute perdu plus de 200 000 hommes depuis le début de la guerre, et il faut multiplier par 3 le nombre de blessés. Donc ce chiffre, je le laisse de côté, fait partie de la guerre d'information que se livrent tous les acteurs d'une guerre. Il n'est pas crédible.
Allez, nous restons sur cette guerre en Ukraine. Que faut-il faire? Faut-il aller plus loin que les livraisons d'armes et le soutien financier? 20h et 21 minutes sur France Info. C'est le retour du Fil Info avec vous, Stéphane Milhomme.
Un dîner décisif ce soir pour l'avenir de la Corse. À Paris, Gérald Darmanin reçoit au ministère de l'Intérieur des élus pour avancer sur le statut d'autonomie de l'île. C'est une promesse d'Emmanuel Macron lors de sa visite l'automne dernier, mais les relations avec les responsables politiques corses restent très tendues. Alors que la Hongrie ratifie aujourd'hui l'entrée de la Suède dans l'OTAN, le Premier ministre Christensen salue un jour historique. Le chancelier allemand Olaf Scholz estime, lui, que c'est une décision qui va renforcer la sécurité de l'Europe et du monde, et cela face à la menace de la Russie voisine. Mahmoud Abbas accepte la démission du gouvernement palestinien. Il charge le Premier ministre sortant, Mohamed Staye, de rester en place avec son équipe jusqu'à l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Une démission en pleine guerre à Gaza entre Israël et le Hamas. À Béziers, près de 700 élèves sont rentrés en classe ce matin en portant un uniforme. Les familles ont retiré gratuitement les tenues pendant les vacances. Pour cette expérimentation, 92 établissements sont candidats dans toute la France, selon le ministère de l'Éducation nationale.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et c'est vous, Patricia Lémonière, qui avez utilisé cette expression de petite musique. Hein. Écoutez ce matin, Justin Weiss, qui était sur France Info, hein, qui est fondateur et directeur général du Forum de Paris sur la paix, et qui dit que pour lui, eh bien, la pente vers la défaite n'est pas inéluctable, Justin Weiss.
Encore plus important est le moment de cristallisation, de prise de conscience et de saisir ce moment pour dire que non, la pente vers la défaite n'est pas inéluctable. La guerre, ça va, ça vient en quelque sorte. On le sait bien, la Première Guerre mondiale était la bonne analogie de cette, à mon avis, et la bonne analogie pour cette guerre d'Ukraine. C'est un moment difficile pour l'Ukraine, mais on peut espérer que les Européens seront en effet encore à ses côtés pendant nombreux mois et de nombreuses années en fait.
Patricia Lémonière, la guerre, ça va, ça vient. Être à côté de Kiev longtemps, le plus longtemps possible, c'est ce qui se dessine.
Alors, c'est ce qui se dessine. Enfin, c'est le discours qui est tenu depuis le début. On soutient les Ukrainiens. Bon, le problème, c'est que toutes les promesses qui ont été faites ont été faites. On l'a toujours dit trop tard, sous le coup des événements, et après les livraisons encore plus tard. Donc, on a cessé d'accumuler du retard dans notre soutien. Et je le répète aujourd'hui, il y a une urgence. Et si il faut absolument répondre à cette urgence, alors le sommet qui est en cours actuellement à l'Élysée, effectivement à Paris, veut essayer, tente de répondre à cette urgence. Là, il y a une proposition des États baltes qui disait il faudrait qu'on mobilise tout de suite 100 milliards pour venir en aide à l'Ukraine. Donc ce que va essayer de faire le président Macron et tous les autres chefs d'État, c'est d'essayer de se mobiliser pour essayer d'atteindre ce chiffre qui ne sera pas, qui pourra être reconnu peut-être en mars, en avril, mais qui ne sera pas mobilisé avant peut-être l'année prochaine. Donc, les Ukrainiens n'ont pas besoin d'argent l'année prochaine, ils n'ont pas besoin d'hommes sur le terrain l'année prochaine, ils n'ont pas besoin d'avions l'année prochaine, ils ont besoin d'avions maintenant et d'obus maintenant s'ils veulent tenir. Parce que Vladimir Poutine joue là-dessus et joue effectivement, on le sait aussi, sur la probable ou pas, d'ailleurs, élection de Trump en novembre.
Jonathan Boucher-Peterson, et puis nous revenons vers Guillaume Ancel pour évoquer son ouvrage. Nous sommes face à Poutine, c'est l'Europe face à Poutine, c'est Macron notamment et les autres face à Poutine.
Oui, et d'une certaine manière, la mort d'Alexis Navalny a joué aussi, je pense, parce que c'était une personnalité dont on pourrait parler longtemps. Il ne s'agit pas d'en faire un absolu vertueux, c'est pas ça, mais en revanche, je pense que ça a créé quand même un électrochoc sur, notamment pour décrédibiliser une partie de ceux qui tiennent l'autre petite musique qu'on entend en ce moment, celle du « Le temps des armes doit cesser », qui est quand même une musique aussi qu'on entend, notamment à l'extrême droite et notamment dans une partie de la gauche qui est
oui,
celle de Raphaël.
Il faut négocier, c'est ça.
Oui, négocier. Voilà, cette idée que le du moindre mal aujourd'hui, que voilà, les Ukrainiens ont déjà beaucoup souffert et qu'il faut prendre acte du fait que, effectivement, la Russie est un plus grand pays. Mais si on se place à l'échelle des blocs, un peu plus large, et à l'échelle des empires, il n'y a pas de complexe à avoir du côté européen. Il y a un temps d'affirmation, il y a quelque chose. Il faut, d'une certaine manière, franchir le pas dont on parle depuis des années et des années. Donc, je ne sais pas si ça va. Je pense que c'est impossible politiquement aujourd'hui d'engager des troupes de façon ouverte. En revanche, je le répète, être au rendez-vous des promesses et mobiliser de l'argent, la première puissance économique du monde doit être capable de le faire sans attendre que Donald Trump fasse défaut.
Alors Guillaume Ancel, vous venez de publier Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette chez Flammarion. Ce n'est pas anecdotique, ça ne vient pas comme un cheveu sur la soupe dans ce que nous nous disons ce soir, puisque au fond, dans ce livre, d'abord vous décrivez votre expérience. À 19 ans, vous intégrez la prestigieuse Académie militaire de Saint-Cyr. C'est dans le Morbihan, hein. Ça se passe là-bas. C'est quand même une institution de Napoléon Bonaparte, il faut le rappeler. Mais
le Corse qui rappelle ça.
Oui, oui, absolument, c'est nécessaire. Vous dites tant de choses dans ce livre qui est un récit assez étonnant. Hein. C'est la Grande Muette, vous avez envie de parler, vous avez envie de vous exprimer. Vous êtes un peu dans un univers contraint, même si vous jouez le jeu, hein, puisque vous serez un officier supérieur sur des opérations spéciales. Vous évoquez notamment, parmi tant de choses, vous dites 32 conflits depuis la fin de la guerre d'Algérie. 32 guerres dans lesquelles la France est impliquée.
Oui, cette école Saint-Cyr, elle est assez étonnante parce que c'est là où on apprend à faire la guerre et à se taire. Et c'est très ancré.
Formé pour vaincre, mais se taire en même temps.
Mais se taire en même temps. Regardez dans notre société française, on ne parle absolument plus de guerre depuis la fin de la guerre d'Algérie. En fait, depuis, on a fait 32 guerres. Et pourtant, officiellement, nous n'avons jamais été en guerre.
Mais des
nous
opérations
avons
spéciales.
Cessé de faire les... Ah non, pas que des opérations spéciales. Regardez la guerre très dure à laquelle on a participé en Bosnie-Herzégovine, la guerre en Irak, notre engagement en Afghanistan, les interventions en Afrique qui n'ont jamais cessé. En fait, on n'a jamais cessé de faire la guerre, mais on a laissé croire à notre société qu'elle n'était plus concernée par cette guerre. Et quand on avait un retour En Europe, par exemple, avec les attentats terroristes, alors ils disaient « Non, mais ça n'a pas de rapport avec la guerre, vous inquiétez pas. Restez tranquille. » Et ça, c'est grave parce qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, c'est comme ça que j'ouvre le livre, on réalise que on s'est désarmé silencieusement, faute de débat dans la société, qui n'a plus de lien avec l'armée. Comment une armée peut prétendre défendre une société avec qui elle ne parle pas ?
La culture du silence ne va pas sans l'esprit militaire quand même. Vous avez envie de vous exprimer, vous le faites comme d'autres généraux, hein, le font sur d'autres plateaux ou ici même. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de forme d'antinomie en quelque sorte ? On ne peut pas être militaire, mener des opérations spéciales, des opérations de guerre, et en même temps exprimer les choses.
Alors attention, je fais bien la différence entre le secret des opérations, qui est valable dans toutes les activités. Vous n'allez pas raconter quand vous allez racheter quelque chose qui vous intéresse pour ne pas faire monter les prix. Et puis là, je parle bien de la culture du silence, on n'est pas dans le secret opérationnel. Non. C'est le fait que même quand on a quitté le service, on continue à se taire, alors qu'en Grande-Bretagne, par exemple, les officiers quittent le service d'abord à 40 ans, parce qu'ils sont obligés de faire une carrière civile, et d'autre part, ils doivent, vis-à-vis de la société, publier leurs souvenirs pour que les gens puissent s'en emparer et se dire « Ah, c'est ça l'armée !» Aujourd'hui, il n'y a pas assez de Michel Goya sur les plateaux, c'est-à-dire d'officiers qui ont une culture historique et qui sont capables d'expliquer à notre société ce qui se passe dans cette guerre qui nous effraie, que ce soit au Proche-Orient ou en Ukraine.
Vous nous dites 32 guerres qui ne disent pas leur nom hein, depuis 1962, depuis l'indépendance de l'Algérie. Guillaume Ancel, est-ce qu'il y aurait une 33e guerre qui se profile pour les Français, pour les Européens face à Poutine ? C'est ce que vous dites en creux ?
Mais en fait,
par-delà le récit que vous faites de vos années, qui sont difficiles hein, d'apprentissage à Saint-Cyr.
Et cette 33e guerre, elle a commencé. Notre sujet, c'est que pour nous, c'est une forme d'impensé. On se dit non, on ne peut pas être en guerre. Mais en réalité, on l'est déjà. Et si on veut gagner cette guerre, il faut d'une part y mettre les moyens et pas attendre 15 ans qu'on se mette d'accord sur un char du futur. Et d'autre part, se mobiliser, y compris accepter qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient dans notre société et qui aillent mourir pour cette bataille parce que on ne peut pas avoir la paix sans se battre.
Et j'invite à lire cet essai, ce récit Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette. J'ai souffert pour vous en lisant ce bouquin. J'étais incapable de suivre le même parcours, je vous le dis très franchement. Merci Guillaume Ancel d'avoir participé.
Juste, on n'en parle pas plus au Parlement que dans la société.
Jonathan Bouchet-Peterson.
On sent vraiment qu'on est dans la 5e République, le fait du prince.
Il n'y a pas de débat, vous dites Jonathan.
Non, ça n'existe pas. Il y aurait un débat parlementaire, ça nourrirait aussi un débat dans la société. Il y aurait des commissions, il y aurait des auditions, il y aurait sur beaucoup de sujets.
Il n'y a pas de débat
sur la guerre. Non, ça n'existe pas. C'est le fait présidentiel. Et souvent, on est juste prévenu a posteriori qu'on a engagé nos troupes à tel ou tel endroit dans le monde.
Allez, merci à vous Guillaume Ancel d'avoir participé à ces informés. Dans un instant, nous évoquons le salon de l'agriculture, les prix planchers et les suites avec la perspective des européennes. Il est 20h30 sur France Info. Et l'info, c'est avec vous. Bonsoir Damien Mestre.
Bonsoir à tous. Emmanuel Macron félicite ce soir la Suède. Le pays va désormais pouvoir adhérer à l'OTAN. Le Parlement hongrois valide cet après-midi cette adhésion. La Hongrie qui était le dernier pays membre de l'Alliance à s'y opposer. La France qui par ailleurs annonce un nouveau largage d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. 2 tonnes de colis alimentaires et de kits d'hygiène. Un largage par avion en coopération avec la Jordanie. C'est le 2e depuis le début du conflit. Le groupe Casino évite la liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Paris valide cet après-midi le plan de sauvegarde de l'enseigne de grande distribution. Tribunal qui ouvre donc la voie à la reprise de Casino par un consortium du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. La chaîne CNews présente ses excuses après la séquence diffusée hier. Séquence durant laquelle l'avortement est présenté comme la première cause de mortalité dans le monde. Des propos indignes, selon le ministre de la Santé. Députés et sénateurs de gauche ont saisi aujourd'hui l'autorité de régulation de l'audiovisuel. 15 000 foyers toujours privés d'électricité ce soir en Bretagne. Conséquence de ces vents violents qui touchent une nouvelle fois la région. Des rafales à plus de 120 km/h ont été enregistrées aujourd'hui à Ouessant.
France Info. 20h, 21h. France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Allez, nous évoquons la crise agricole, les suites du salon de l'agriculture, les prix planchers, ce nouveau concept lancé par le président Emmanuel Macron et aussi la perspective de la bataille des Européennes dans cette deuxième partie des informés de France Info avec nos deux informés, Patricia Lémonière, grand reporter spécialiste des questions internationales, mais aussi, pas que, hein, aussi de la question agricole.
Grande spécialiste de la PAC.
et
de la PAC européenne.
Et Jonathan Boucher-Peterson, éditorialiste politique à Libération. Et dans un instant, nous serons en ligne avec Philippe Chalmin, professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine. La crise agricole, elle ne faiblit pas, vous le savez, en France comme en Europe. Des agriculteurs ont manifesté à Bruxelles. Il y a eu pas mal de heurts à Madrid et en Pologne pour exiger un soutien de la part de l'Union européenne sur des questions allant des prix bas des supermarchés aux accords de libre-échange. Tout le spectre est couvert, comme lors de notre débat national, alors que les ministres de l'agriculture concernés se réunissent pour discuter de la crise dans tout le secteur. Emmanuel Macron a-t-il repris la main avec les agriculteurs après son passage chaotique samedi au salon de l'agriculture, marqué par de nombreux incidents, souvenez-vous, samedi entre agriculteurs et forces de l'ordre? Le président hué, sifflé, a fait une proposition choc. Parmi plusieurs nouvelles annonces, celle d'instaurer des prix planchers afin de protéger le revenu agricole dans le cadre d'une nouvelle loi Egalim. Bonsoir à vous, Philippe Chalmin.
Bonsoir.
Et bienvenue dans Les Informés. Je rappelle, donc, professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine. Nous avons besoin de vos lumières ce soir, Philippe Chalmin. Des prix planchers afin de garantir un revenu aux agriculteurs. Est-ce que vous avez compris de quoi il s'agissait?
Ben, écoutez, si j'en ai bien compris, tous les gens de ma génération, c'est la réinvention d'un système qui a fonctionné en Europe pendant presque un demi-siècle, entre le début des années 60, le début de la politique agricole commune, et le début du XXIe siècle, qui s'appelait tout simplement l'intervention. Il faut savoir que pendant presque un demi-siècle en Europe, il n'y a pas eu de discussion sur les prix agricoles, puisque les prix agricoles étaient garantis au niveau européen. C'était pour les céréales, pour le lait, pour la viande bovine, pour le sucre. Alors, les niveaux de garantie étaient différents. C'était moindre, par exemple, pour les fruits et légumes. Mais globalement, ça a relativement bien fonctionné, avec quand même quelques limites, puisque quand on disait prix d'intervention, cela voulait dire que si jamais le prix de marché se trouvait être inférieur au prix qui était garanti, il devait y avoir une intervention de l'État, c'est-à-dire que des organismes stockeurs allaient acheter la marchandise, la stocker, et pour les plus anciens, ça doit leur rappeler toutes les histoires à la fin du XXe siècle, où en Europe, on ne savait que faire des montagnes de lait, des lacs d'huile d'olive, des montagnes de blé, etc. Ce qui est une des raisons pour lesquelles, peu à peu, le système a été abandonné jusqu'à totalement disparaître aujourd'hui.
C'est une économie sous contrôle, les prix planchers, en quelque sorte?
Oui, c'était des prix administrés. Chaque année, il y avait au mois de juin ce qu'on appelait le marathon agricole, qui était la réunion des ministres de l'agriculture, des membres d'abord de la commission, de la communauté européenne, puis de l'Union européenne, et puis en général le samedi matin, dans le petit matin blême de Bruxelles, le ministre sortait et annonçait quels allaient être les prix pour l'année à venir. C'était des prix politiques. À l'époque, on ne parlait pas vraiment de coûts de production. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prix européens étaient totalement décalés par rapport à la tendance des prix mondiaux. Et un des problèmes, bien entendu, c'est que le marché européen était totalement isolé du marché mondial. Quand on avait des stocks excédentaires, il fallait subventionner à l'exportation. On donnait ce qu'on appelait des restitutions. Donc c'était tout un système d'une extraordinaire complexité qui a été très efficace. Mais dont le défaut majeur, et c'est là où moi j'ai un petit problème avec le prix plancher tel que notre président en a parlé, c'est que moi je veux bien qu'on garantisse des prix, mais à ce moment-là il faut mettre en face les quantités que l'on va garantir. Très rapidement, lorsque dans le cadre de la PAC, on s'était rendu compte que des garanties de prix, je dirais à l'infini, étaient impossibles, et donc on avait mis en place des quotas. Mais alors, est-ce que les quotas, est-ce que vous les attachez à la terre? Est-ce que vous les attachez à l'exploitation? Là, on rentre dans des choses extraordinairement complexes. Alors, les prix planchers dont on a parlé samedi, alors, si c'est uniquement français, ça n'a aucun sens, puisque les produits agricoles et alimentaires en Europe circulent totalement librement.
Hexagonal, ça ne marche pas.
La France ne peut pas s'isoler du reste de l'Europe. Au niveau européen, je vois mal nos partenaires réinventer la politique agricole commune. Et en plus, ça impliquerait de revenir, finalement, de réinventer le système qui a fonctionné pas si mal que ça dans les années 70 et 80.
Restez avec nous, Philippe Chalmin. Patricia Lémonière, ces retours vers le futur, un côté un petit peu usine à gaz, hein, l'annonce. Ou alors, il y a un vrai plan solide, surprenant, mais encore faut-il savoir ce qu'il y a dedans, quoi.
Non, je crois même qu'il y a des participants au Salon de l'agriculteur a dit c'est encore une mesurette sortie d'une boîte de camembert, a-t-il dit. Donc, vous voyez là, comment il considérait l'agriculture. Oui, des boîtes de camembert, c'est son expression. Donc, je crois que malheureusement, c'est encore une mesure annoncée, un effet d'annonce pour calmer. Effectivement, on vient de voir que c'est excessivement difficile à mettre en place parce que entre un quota sur, mettons, des moutons élevés en pleine Corse, mettons, et des moutons élevés dans une grange, mettons, pas dans la Beauce, mais dans le Massif central, comment on fait les calculs? Donc tout ça, c'est impossible. Et puis effectivement, dans une Europe, et j'en terminerai par là, ouverte sur le marché, les marchés internationaux, qui a signé des traités quand même de libre-échange avec certains partenaires, ce n'est pas possible non plus. Donc la mise en place de cette mesure est fort peu probable, et sa non mise en place risque de participer au renforcement du mécontentement.
Voire même déception si d'aventure cette mesure n'allait pas au bout, Jonathan Boucher-Peterson, avant de revenir à Philippe Chalmin.
Oui, mais après, elle ne sort pas du chapeau juste par caprice, c'est-à-dire qu'elle sort du chapeau dans un système actuel de dérégulation continue depuis 30 ans qui est un échec absolu.
Vous trouvez que c'est une bonne idée au
Je ne sais pas si c'est la bonne idée, parce qu'encore une fois, comme Philippe Chalmin le dit et comme l'expérience peut nous l'apprendre, c'est effectivement des choses qui sont complexes. Mais si on fait le procès d'une certaine manière du libre-échange, ou en tout cas des excès du libre-échange, on est obligé de revenir vers quelque chose d'un peu moins libre, d'un peu plus administré, d'un peu plus contrôlé. Donc après, effectivement, dès qu'on met un peu de contrôle et un peu de cadre, on dit usine à gaz. Dans ces cas-là, on baisse les bras et on dit au marché, débrouillez-vous. Et ceux qui n'en bénéficient pas, c'est ceux qu'on porte au pinacle aujourd'hui en disant ils nous nourrissent, il faut qu'ils soient payés au juste prix. De toute façon, il y a plusieurs leviers. Il y a le levier du partage des marges. Ça, on se rend compte que même dans le système actuel, le créateur de richesse, à la base, l'agriculteur, le producteur, n'est pas celui qui est le mieux rémunéré par rapport au transformateur, par rapport au distributeur. Là, le gouvernement, ça a été un peu le premier round, et on se rend compte qu'il ne se passe pas grand-chose. Après, il y a la deuxième étape, c'est de dire comment est-ce qu'on essaye de trouver un cadre qui soit plus vertueux pour le producteur dans ce système dérégulé. Je suis d'accord qu'il y a quelque chose de l'effet d'annonce. La Confédération paysanne le demande depuis des années. La gauche, au sens
ça allait un peu calmer la colère.
Non, mais ça peut calmer si ça devient concret. Et ce ne sera peut-être pas généralisé sur l'ensemble des produits. Effectivement, comme disait Philippe Chalmin, ce ne sera pas de façon illimitée et on peut revenir à un système de quotas. Il y a des filières qui sont quand même plus en difficulté que d'autres. On voit que les producteurs de lait à l'échelle européenne...
Il faut que ça marche.
Bien sûr, il faut que ce soit européen, mais la PAC, il faut que ce soit européen pour que ça ait une existence. Et ça n'empêche pas quand on négocie. On se souvient des années Chirac. Voilà, si la FNSEA, ils sont bien gentils de venir dire Europe bouc émissaire, abat l'Europe, abat l'Europe, c'est les premiers à faire du lobbying à Bruxelles pour obtenir que la France soit très bien rétribuée par la PAC. Ça pose juste un tout dernier mot, une question aussi plus large, c'est de dire que les aides, et quand on parle de la PAC, on en parle de façon un peu indifférenciée, cette espèce de prime à l'exploitation de plus en plus grande, portée par la FNSEA, ça aussi, ça doit être questionné. Donc quand on dit changement de paradigme, changement de logiciel, repenser les choses, on est sur des dossiers qui sont absolument massifs. Après, je pense qu'il ne faut pas évacuer certains retours en arrière. Le futur n'était pas toujours désirable, visiblement.
Ne bougez pas. Philippe Chalmin, je reviens vers vous. Je vous soumettrai ce qu'en a dit tout à l'heure José Bové sur France Info. Il est 20h41. Pour l'instant, c'est le retour du Fil Info, Stéphane Milhomme.
Et face au vent violent en Bretagne, 15 000 foyers restent privés d'électricité ce soir. 700 agents Enedis mobilisés. Les rafales dépassent les 120 km/h. Et puis 5 départements restent en vigilance orange, cette fois face aux crues. Les Deux-Charentes, la Dordogne, la Gironde, le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais où des cours d'eau menacent à nouveau de sortir de leur lit. En Moselle, une jeune femme soupçonnée d'infanticide. Une enquête est ouverte. Elle est en garde à vue. Cette femme de 21 ans s'est présentée mercredi dernier à l'hôpital de Forbach avec le corps sans vie de son bébé. Elle avait accouché quelques heures plus tôt à son domicile. Sans ce feu vert pour Casino et ses 50 000 salariés, c'était la liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Paris valide le plan de sauvetage du groupe. Les nouveaux actionnaires, Daniel Kretinsky et Marc Ladret de la Charrière, vont mettre chacun 1,2 milliard d'euros sur la table. Casino vend aussi 288 magasins à Auchan, Intermarché ou encore Carrefour. Et puis la France et la Jordanie ont largué plus de 2 tonnes de colis alimentaires et de kits d'hygiène au-dessus de la bande de Gaza. Le ministère français des Affaires étrangères précise ce soir que le stock a été lancé par 4 avions, dont un français. Un premier largage conjoint avait déjà eu lieu, c'était début janvier.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors ces prix planchers qui avaient été proposés notamment par la France Insoumise sont des mesures démagogiques, c'est ce qu'avait estimé Marc Fesneau il y a un mois. C'est le ministre de l'Agriculture qui avait alors dénoncé, je le cite, une concurrence déloyale sur le marché européen. Qu'est-ce qui a pu changer à un mois? J'ai posé la question à l'ancien eurodéputé et militant écologiste José Bové, qui était l'invité du 18-20 France Info.
Je dirais qu'il a compris que le fondement de la révolte, et en tout cas des manifestations, c'est cette volonté de dignité des paysans pour qui on veut vivre de son travail et pas des aides. C'est vrai que c'est quand même très frustrant de travailler, et souvent durement, en se disant notre seul revenu, ce sont les aides directes de la PAC. Et je crois que là, par rapport à ça, l'agro-industrie, la grande distribution, a sa part de responsabilité dans cette crise, et ça, ça doit être réglé.
Alors Philippe Chalmin, pour la petite histoire, hein, il y a un mois, pas question d'accepter ou d'accéder à ces prix planchers. Un mois plus tard, ah ben finalement, c'est la bonne idée. Et puis il y a cette exigence, hein, vivre de son travail et pas des aides. C'est ce que répètent les agriculteurs aujourd'hui. Hein.
Mais ça a toujours été un petit peu le grand dilemme des politiques agricoles. Il ne faut pas se leurrer. Une politique agricole, il y a deux personnes qui peuvent la financer. Le consommateur ou le contribuable. Soit c'est le consommateur par le biais de prix qui seront des prix administrés, des prix politiques, et qui permettront effectivement de rémunérer correctement les agriculteurs. C'est ce qui s'est passé dans la politique agricole commune, première manière. C'est ce qui existe encore, d'ailleurs je vous le rappelle, dans un certain nombre de pays, je pense à côté de nous, à la Suisse, je pense à la Norvège, à la Corée du Sud, au Japon, où effectivement les marchés agricoles intérieurs sont totalement séparés du reste du monde, parce que ce sont des pays qui sont importateurs, donc qui n'embêtent rigoureusement personne. Et puis, vous avez l'autre solution, qui est de laisser fonctionner le marché. Alors les puristes diront « c'est de la dérégulation sauvage, etc. » Malgré tout, quand on est un pays plutôt exportateur, ce qui est le cas de l'Europe en général, oui, et de la France en particulier, ben, on a plutôt quand même besoin d'exporter. Nous exportons du blé, nous exportons des produits laitiers, nous exportons de la viande bovine, je ne vous parle pas des vins et spiritueux. Et donc, à ce moment-là, les prix de marché, par nature, ils sont instables. Il y a des moments où ils sont élevés. Je vous prends un exemple. Oui. Au lendemain l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le prix du blé est monté à 400 euros la tonne. Aujourd'hui, on est à moins de 200 euros pour un coût de production moyen en France qui doit se balader entre 180 et 200. Donc, l'instabilité des marchés, elle est quelque chose qui est, je dirais, consubstantiel au fonctionnement de la scène mondiale.
Et vous nous dites que c'est difficile d'y mettre des prix bloqués dans cette histoire, en réalité.
Alors, oui, soit vous avez la notion de juste prix, la notion de juste prix rémunérateur, c'est très bien, ça fait très bien sur les estrades politiques, ça n'a économiquement rigoureusement aucun sens. Soit vous avez des prix politiques, et on les assume, soit vous avez des prix de marché, et puis par derrière quand même, vous compensez, et vous compensez par des aides directes. C'est ce qui se fait aux États-Unis, c'est ce qui se fait en Europe. Alors simplement en Europe, on en a rajouté une couche en conditionnant ces aides directes à des cahiers des charges verts et verdâtres, complexes, tatillonesques dans le cas français, et qui donne l'impression aux agriculteurs qui sont les otages de politiques qui ne comprennent pas leur métier. Voilà le problème. Oui. Et malheureusement, oui. J'ai pas de solution à vous apporter sur un plateau. Les prix planchers, c'est très bien, et à la limite, je m'en veux presque de casser le cœur de tous ceux qui estiment que le prix plancher est une bonne solution. Il peut être une bonne solution pour des petites productions. Je vais vous prendre un exemple d'une production laitière dans laquelle il y a quasiment un prix plancher, et nous apprécions tous le comté, bien les producteurs de lait de comté sont dans une situation dans laquelle ils se sont extraits du marché, et à ce moment-là, ils n'ont plus à en subir les conséquences. Si vous êtes capable de le faire, c'est bien, mais il faut à ce moment-là avoir une niche, et que cette niche, bah, les consommateurs soient prêts à l'entretenir, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas.
Patricia Lémonnière, pas très rassurant tout de même.
Oui, mais oui. Pas très rassurant. Enfin, la question qui est posée est essentielle. Ce qui vient d'être posé est essentiel. Si on veut mettre ces prix planchers, il faut se couper du marché. Ça veut dire ne plus exporter, enfin ne plus rester ouvert. Ça veut dire repenser en tout cas complètement notre modèle, parce que on peut vouloir effectivement adopter le modèle américain avec des subventions, des protections frontières ou d'autres modèles. Bon. Sans penser au modèle japonais qui est complètement fermé mais qui n'exporte pas. Donc comment réguler ce prix plancher politique, en quelque sorte, comme il a été défini là, avec le marché européen, avec le marché international? C'est excessivement difficile.
On fait bien avec la culture.
Pardon ?
Vous dites quoi ?
Avec la culture, oui, mais la culture n'est pas...
On est sur des dimensions différentes, mais c'est quand même l'idée de dire...
On est sur des produits totalement
différents. Vous y croyez, apparemment, Jean-Pierre Peterson.
Ça vient répondre, en tout cas, à des questionnements qu'il faut poser. Après, sur la technicité des choses...
Je pense qu'il faut effectivement se mettre tous autour de la table. C'est ce que les agriculteurs demandent, et pas que les grandes surfaces, etc. Il faut que les producteurs viennent autour de la table et que tout le monde, effectivement, parle...
Mais on ne peut pas se résoudre au statu quo. On voit que le statu quo est une impasse, quand même, donc même si le marché est glorifié, même si on utilise des mots comme ouverture, personne n'a envie de fermeture en soi, mais il y a un débat qui est un petit peu biaisé, parce que derrière l'ouverture, il y a quand même une sauvagerie de la dérégulation, même si Philippe Chalmin n'emploie pas ces mots, et à l'arrivée, dans le système tel qu'il fonctionne par lui-même, si l'État ne joue pas son rôle, ou les puissances publiques à l'échelle européenne ne jouent pas leur rôle, évidemment avec des intérêts un peu antagonistes, c'est de la négociation, c'est comme ça que ça marche, et qu'on pourra trouver peut-être une voie de sortie. Là, il y a quelque chose qui est balancé un peu évidemment comme un mot valise que chacun s'approprie comme il veut pour essayer de calmer la colère. Je pense que si on en reste à simplement une expression lancée dans le débat, ça ne calmera rien du tout. Donc il va falloir atterrir avec des propositions claires, nettes, précises.
Mettre autour de la table, réfléchir.
Mais encore une fois, le statu quo n'est pas possible.
Philippe Chalmin, pour conclure, pour boucler cette réflexion autour de ces prix planchers, est-ce qu'il n'y a pas un risque de déception au fond, au bout du chemin?
Ben, malheureusement, il y a un risque de déception. Il y a un autre point sur lequel un de vos interlocuteurs est revenu, c'est l'histoire des marges de l'industrie, de la grande distribution, etc. C'est bien de dire tout cela. Simplement, je reviens à mes prix agricoles. L'agriculteur, il est payé sur la base de prix agricoles. Et ces prix agricoles, ce sont... Alors, bon, je vais pas... c'est la sauvagerie peut-être du marché, mais c'est un marché... non seulement national, mais surtout européen et mondial. Même le lait, sur lequel nous sommes un petit peu moins sensibles à l'international, bah, il faut savoir que si les prix du lait ont baissé ces derniers mois, le prix du lait aux producteurs, c'est qu'à l'international, les prix du beurre, de la poudre de lait, donc des grandes matières premières laitières, ont baissé de 25 à 30% parce que la Chine n'a plus été aux achats. Et donc, il faut bien se rendre compte que si on veut essayer de se sortir de toutes ces contraintes, on parlait du Japon, mais à côté de nous, nous avons nos amis suisses. La Suisse est un merveilleux pays, ils n'exportent pas et ils ont des systèmes de prix garantis. Ils n'embêtent personne à l'exportation. Nous, notre situation est un peu différente parce que nous avons quand même une agriculture qui a un potentiel non négligeable à l'international. Allez. Alors malheureusement, deux solutions comme ça, je claque les doigts et je vous dis, c'est merveilleux, le prix plancher c'est la solution, je suis obligé de dire que d'abord on l'a déjà inventé, puisque ça a déjà fonctionné en Europe pendant une trentaine d'années, on en a vu les limites, et j'imagine mal qu'on puisse le réinventer Et on ne peut pas le faire au niveau français. Allez. C'est au minimum au niveau européen. Et je ne vous dis pas le jour où nous aurons accueilli l'Ukraine.
Allez, oui, merci. Merci à vous, Philippe Chalmin, professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine. Nous verrons bien ce que le président Emmanuel Macron met dans la boîte de ses prix planchers. Dans un instant, nous évoquons ce salon avec la perspective de la bataille des Européennes, 20h52 sur France Info. Le Fil Info, il est signé Stéphane Nilhomme.
À Goussainville, dans le Val-d'Oise, un collégien de 11 ans a été interpellé pour menace de mort envers son professeur d'histoire et apologie du terrorisme. Il est accusé d'avoir publié ses menaces sur les réseaux sociaux. 900 tracteurs paralysent Bruxelles. Une nouvelle action aujourd'hui des agriculteurs venus notamment d'Espagne, du Portugal, de Belgique, au moment où les 27 ministres de l'Agriculture tentent de mettre en place une simplification de la politique agricole commune. Colère aussi côté espagnol. La préfecture de l'Aude décide de la fermeture de l'autoroute A9 à titre préventif, demain matin dès 8h à partir de Leucate, et cela en direction de l'Espagne. Au Liban, le Hezbollah annonce avoir tiré 60 roquettes sur une base militaire israélienne. Cette attaque est une représaille à des frappes israéliennes menées ces dernières heures dans l'est du Liban et qui ont fait 2 morts parmi les combattants islamistes. Le film « Je verrai toujours vos visages » remporte le César des lycéens, le film de Jeanne Herry, choisi par plus de 2000 jeunes parmi 5 œuvres sorties cette année au cinéma et quelques jours après la grande cérémonie des récompenses du cinéma français.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Mais oui, le salon est aussi synonyme de défilé des personnalités politiques. Ce n'est pas une nouveauté, ça a toujours existé, sauf que là, vous avez les Européennes dans la ligne de mire et ce match. Je ne sais pas si on doit dire Macron-Bardella ou Attal-Bardella, la majorité versus le Rassemblement national pour ces Européennes. Jordan Bardella, le président du RN, aura passé 2 journées tranquilles au salon, invité dans le 12-13 de France Bleu.
Les dirigeants politiques qui se sont succédés à la tête du pays comme à la tête de l'Union européenne ont commis une faute économique très lourde en prônant depuis une décennie la décroissance agricole. Cette décroissance agricole, elle s'exprime au travers de la signature de tout un tas de stratégies au niveau européen, la stratégie de la ferme à la fourchette, le Green Deal, le pacte vert qui prévoit précisément, dans les prochaines années, la baisse des rendements agricoles de 10 à 20%, la baisse du nombre de cheptels et la baisse par conséquent des rendements agricoles.
Jonathan Boucher-Peterson, nous sommes en pleine campagne des Européennes, c'est clair.
Oui, c'est
un sujet. Oui.
C'est un sujet d'ailleurs.
Pour le coup, c'est légitime.
Oui, c'est tout à fait légitime. Après, il faudrait pas croire que ce soit le seul sujet. Chacun fait un peu son miel entre le pays réel sauce Bardella, entre le travailleur glorifié sauce Macron. Il reste beaucoup d'autres sujets dans la société où l'Europe a un rôle à jouer. Donc il y a quelque chose, oui, d'un syncrétisme autour de la question agricole qui est intéressant. Juste pour faire le lien avec le débat précédent, Jordan Bardella, ça fait partie des gens qui viennent de retourner leur veste sur la question des prix planchers aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la doctrine Bardella sur la question de l'agriculture, c'est un peu là où pousse le vent en ce moment. Donc il y a pas grand-chose. On sent quand même que, pareil, tout le monde est un peu schizophrène là-dessus. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde le vote des députés RN au Parlement européen, dont Jordan Bardella était le chef de file, on est quand même sur des gens qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour abîmer la PAC ces dernières années et qui aujourd'hui viennent en France pour dire qu'il faut protéger les revenus ou les sources de revenus des agriculteurs. Donc il y a quelque chose d'un peu année zéro sur l'agriculture. Tout le monde essaye d'oublier ce qu'il a voté sur la question du libre échange ou sur la question de la PAC. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'avenir des agriculteurs français sans une Europe un peu plus administrée et un peu plus solidaire. Oui, après, il y a clairement le lancement de la campagne des Européennes autour de ces questions-là. Il ne faudrait pas que ce soit le seul sujet parce qu'on passerait à côté de beaucoup d'enjeux.
Patricia Lémonière, il y aura eu 2 sensations le samedi du président Emmanuel Macron et le dimanche du chef de file des Européennes du RN, Jordan Bardella. Personne ne détient la pierre philosophale dans cette histoire.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est une question de détenir la pierre philosophale, mais en tout cas, ce qu'on voit très bien, c'est que Jordan Bardella, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut, en fait, lancer sa campagne européenne autour de l'anti-Macron. C'est-à-dire, il veut faire en sorte que la détestation, effectivement, qu'il sent...
Il y a eu l'inverse, le président aussi, qui accuse le RN d'avoir orchestré les manifestations qui étaient multiples.
J'en finis avec Bardella. Il veut effectivement lancer cette campagne autour de l'anti-Macron, et reprendre ce mécontentement et capitaliser sur ce mécontentement, d'autant que le RN a une marge de manœuvre dans le monde rural et agricole, parce que jusqu'à présent, ce monde-là votait plutôt pour le candidat Macron, enfin, ou pour la France, je la dirais, la France
la
du
droite,
centre.
La droite Chirac,
la droite
j'ai envie de dire, puisqu'on parle du salon. Oui.
Le centre-droit, j'ai envie de dire. Oui. Donc, ils ont une progression, une marge de une progression, et là, ils veulent jouer dessus. Quant au président, il reste arc-bouté, effectivement, sur sa ligne, qui est effectivement se retrouver dans un face-à-face avec Marine Le Pen ou le Rassemblement National pour tenter, effectivement, de garder... De sauver les meubles, j'ai envie de dire.
Allez, il est temps de conclure, ce sera avec vous, mon cher Jonathan Bouche et Petersen, vous allez nous livrer la...
Oh là, oh là là, oh là là.
La une de Libération demain.
J'en sais rien.
Bon.
J'ai trop préparé cette émission pour m'intéresser.
Mais vous l'avez même excellemment bien préparée. Allez, si vous l'avez avant
la fin du très bonne, n'hésitez pas à venir la découvrir demain matin et ce soir en ligne.
Et en ligne dès ce soir. Merci à vous, à tous les deux. Merci Patricia Lémonière. Le retour des informés, ce sera demain matin à 9h sur France Info. Bonne soirée avec nous.